On est en pleine série sur Jésus, hein? Jésus et moi. En fait, on conclut la série sur Jésus et moi aujourd'hui. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va examiner ensemble des déclarations de Asaph à la fin du psaume 73 et réfléchir à ce que ça peut vouloir dire pour nous aujourd'hui. Jésus et moi, psaume 73, Asaph, c'est quoi le rapport? Comme dirait l'autre, restez avec moi puis vous allez voir dans la suite. On a vu dans la série de Jésus cet été qu'on avait besoin d'être passionnément avec Jésus ou passionnément en Jésus. On avait aussi appris à faire confiance à Jésus ou à rester en confiance avec Jésus de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. On a parlé de quel ami fidèle et tendre. Ça, c'est vrai. Tout est vrai. Avec Jésus tous les jours, on a parlé d'être dévoué envers Jésus et la semaine dernière d'être adorateur à temps plein, adorateur de Jésus à temps plein. Et aujourd'hui, donc, on veut parler d'être toujours plus près de Jésus. Toujours plus près de Jésus. Alors, voici la déclaration d'Asaph à la fin du psaume 73 qu'on voit ensemble au verset 28. « Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. » Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. Asaph dit ici, là, pour moi, là, dans mon cœur, là, dans ma vraie vie, là, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. 3-4 versets auparavant, ce qu'il dit dans le même psaume 73, c'est « Qui d'autre ai-je au ciel? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Je prends plaisir juste en toi. Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » C'est spirituel, hein? C'est beau, c'est... Waouh, quelle déclaration! C'est louable, c'est souhaitable. Mais est-ce réaliste? Je ne prends plaisir qu'en toi. Dans la vraie vie de tous les jours, est-ce que vous n'éprouvez pas des entraves des fois? Des blocages? Des surprises? Des distractions? Des réalités qui nous amènent à nous laisser distraire? Bien qu'il aimait Dieu et qu'il affirmait avec sincérité que Dieu est bon, Asaph a, comme nous, été confronté à une réalité qui risquait bien de le faire dérailler. Comme nous, il a dû faire face à des contradictions, à des mystères de la vie. Parce que son affirmation du départ dans le psaume 73, Asaph, c'est au verset 1, « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Oui, Dieu est bon. » Dans un autre siècle, on chantait « Oui, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon pour moi. » Je présume qu'à Edmonton, dans ce siècle-là, on chantait aussi « Yes, God is good. Hein? » Oui, Dieu est bon. Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Alors, voilà l'affirmation qu'il fait ici. En fait, la vérité, c'est que c'est vrai que Dieu est bon. Amen. Dans les Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23, la Bible nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Que ta fidélité est grande. La dernière fois que j'ai prêché ici, c'était justement en parlant de ce passage-là de Lamentations, chapitre 3. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Se renouvelle chaque matin, ça ne veut pas dire que chaque fois que je vais prêcher au Carrefour, je vais parler des bontés de Dieu, quoique ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée de se faire rappeler régulièrement comment Dieu est bon. Peu importe les déclarations que les grands personnages font partout autour de la terre, peu importe les menaces qui peuvent nous toucher ou nous atteindre ou nous viser, Dieu est bon. Amen. Regardez votre voisin puis dites-lui, Dieu est bon. Dieu est bon. God is good, hein? Dieu est bon. Dieu est bon. Cette semaine, tout au long de la semaine, Dieu va être bon. Il va être prêt à nous rencontrer encore et encore. Mais franchement, ce n'est pas toujours évident. Vous le savez, ce n'est pas évident tout le temps. On a beau croire en Dieu, on a beau aimer sa parole, nous avons parfois à faire face à des situations difficiles ou difficiles à comprendre, ou bien non, nous avons à faire face à des injustices, carrément des choses injustes. Comment ça, ça m'arrive à moi? Pourquoi ça n'arrive pas aux autres ou à l'autre ici, là? Pourquoi ça n'arrive pas aux autres? Tôt ou tard, nous aurons à passer à travers, sur cette route-là, la route des dangers de la comparaison. Nous passons tous par là. On finit par comparer des fois des choses, hein? À un moment donné, on se dit, pourquoi lui ou elle a-t-elle ceci et pas moi? C'est qui entre les deux qui le mérite le plus? C'est moi. C'est toujours moi. Hein? Même si moi, je suis l'autre, c'est moi qui le mérite et pas l'autre qui est l'un. Pourquoi a-t-il ceci ou a-t-elle cela et pas moi? Pourquoi vit-elle ainsi et pas moi? Pourtant, pourquoi conduit-elle telle sorte de véhicule et pas moi? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Hein? Pourquoi les autres et pas moi? La comparaison, mes amis, c'est un terrain glissant, dangereux, où on risque de trébucher, on risque de tomber. Danger, terrain glissant. Tu sais les petites pancartes jaunes qu'on peut mettre quand le plancher est mouillé, c'est ça, hein? Plancher glissant. Attention, terrain glissant ici, quand on se met à comparer. C'est ce qu'on voit dans le verset 2 du psaume 73. Hein, Dieu est bon. Dieu est bon, c'est ce qu'il avait affirmé. Mais il dit, toutefois, mon pied allait trébucher. Et mes pas étaient sur le point de glisser. J'étais sur un terrain glissant. Pourquoi? Verset 3, parce que j'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. Il était jaloux du bien-être de l'autre. Il se comparait à l'autre. L'autre avait l'air d'être bien, très bien. Et lui, peut-être qu'il se disait, ben, je ne suis peut-être pas pire, mais peut-être pas si bien que ça. Plus il évalue sa situation par rapport à celle de l'infidèle, plus il commence à déraper, à trébucher, à glisser de sa fondation ferme et solide qui est « Oui, Dieu est bon. » Dieu est bon, mais il a l'air mieux que moi. Dieu est bon, mais l'autre, il a l'air d'être plus à l'aise que moi, d'être plus confortable que moi. Comment ça? C'est pas juste, hein? Alors, il expérimente donc le doute. Dieu est bon, oui, mais le doute. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de douter? Douter. Ce n'est pas un péché de douter. Il y a une différence entre le doute et l'incrédulité. Le doute, ça vient lorsqu'il y a une lutte dans un esprit en difficulté, qui a de la misère à saisir quelque chose. Tandis que l'incrédulité, ça vient d'une volonté têtue qui refuse de se soumettre à Dieu. Il était dans le doute, Asaph. Pourquoi? Parce qu'il était en train de douter. Parce que j'étais jaloux. Jaloux. C'est Lloyd Ogilvy, un grand prédicateur américain, qui disait « L'envie ou la jalousie est un état instable dans lequel nous regardons les autres au lieu de regarder Dieu. » La jalousie, l'envie. Ça ne vous arrive pas à vous autres. Ou ça ne vous est peut-être pas encore arrivé. Mais un jour, ça va vous arriver. Et ce jour-là, rappelez-vous qu'il est préférable de regarder Dieu au lieu de regarder la comparaison avec les autres. Je regardais et j'étais jaloux du bien-être des méchants. Le bien-être. Ce mot-là, bien-être, ou qui est traduit dans d'autres traductions comme prospérité, la prospérité des autres ou le bonheur de l'autre, en vérité, c'est le mot hébreu « shalom ». Oui, « shalom ». Quand je regardais la « shalom » des méchants. Hein? Le bien-être, le confort des méchants. Ce mot-là, hébreu, shalom, signifie principalement paix, mais il englobe aussi les notions de plénitude, de santé et de bien-être. Quand tu es dans le shalom, ça va bien. Alors, je regardais, puis il comparait, puis ces méchants-là, ils ont l'air d'avoir tout ce qu'ils ont besoin, eux autres. Hein? Ils ont l'air d'être tout à fait confortables dans la situation dans laquelle ils sont. Ce mot-là, shalom, exprime donc un état où rien ne manque et où tout fonctionne, numéro un. Hein? Tout fonctionne, numéro un. J'étais jaloux, donc, des vantards. Asaph poursuit sa réflexion et crie au verset 4, « Rien ne les tourmente. » Tu sais, ils sont en paix, eux autres. Ils sont confortables, eux autres. Rien leur manque. Ils ont tout ce qu'il faut, eux autres. En voulant dire, moi, il me manque des choses. Hein. Je n'ai pas tout à fait tout ce que je souhaiterais ou ce que je voudrais avoir. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, dit-il. Et leur corps prend de l'embonpoint. Pour un cerveau nord-américain du 21e siècle, bien-être, confort n'égale pas nécessairement embonpoint, n'est-ce pas? J'étais jaloux du bien-être des autres, j'étais jaloux de l'embonpoint des autres. Combien il y a de personnes ici qui aimeraient qu'il y en ait qui soient jaloux des autres un peu? Vous avez des rondeurs, hein? Il y a du monde qui était jaloux de vous autres. Asaph était jaloux des gens qui avaient de l'embonpoint. Ça vaut la peine de venir à l'église aujourd'hui? Je viens de me faire dire qu'en ayant de l'embonpoint, je suis une source de jalousie. Ouh! C'est drôle comment les perceptions de certaines réalités varient selon les cultures. Hein? Ici, maintenant, on est obsédé par une recherche démesurée pour la minceur. Hein? En ce temps-là, on était jaloux de ceux qui avaient de l'embonpoint. Ici, on achète de l'Ozempic à tonnes. L'année dernière, en 2025, les ventes mondiales d'Ozempic ont atteint des sommes évaluées à près de 19 milliards US. 19 000 millions de dollars. D'argent canadien, ce qui est notre expérience à chacun d'entre nous, c'est 26,2 milliards canadiens. Dans un an, les ventes mondiales. Ça, c'est 500 millions par semaine. C'est du revenu, ça, monsieur, madame. Hein? Pourquoi? Pour la recherche de la minceur. Hein? Une petite injection pour être capable d'avoir moins faim puis éventuellement être capable de découvrir la beauté suprême qui est la minceur. C'est pas partout pareil. Avez-vous entendu parler de l'Ozempic inversé? Ça existe, ça. C'est une expression qui désigne une tendance observée dans certaines régions du monde, à l'inverse de l'Occident qui recherche, l'Occident recherche la minceur via des injections, mais il y a des femmes ailleurs qui utilisent des produits pour prendre du poids à tout prix. Il y a des pays dans le monde où on valorise les rondeurs. On recherche les rondeurs. Ici, il y a des gens qui prient pour maigrir, là-bas, il y a des gens qui prient pour avoir de l'embonpoint. Ça doit être mêlant pour Dieu, ça, hein? Un petit peu de transfert de localisation, peut-être, ça ferait toute une différence. Je garde mon apparence, puis soudainement, je deviens désirable, hein? Ici, c'est la minceur, et là-bas, c'est la rondeur. La vérité, mes amis, c'est que peu importe où est-ce qu'on est, peu importe la culture dans laquelle on est, le bonheur se trouve à apprendre à être reconnaissant avec ce qu'on a. Hein? Le psaume 139 dit, David s'exprime, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, avec ou sans les rondeurs. » Que tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Amen. Alors, retournez-vous vers votre voisin et dites-lui, je suis vraiment une œuvre merveilleuse. Je suis vraiment une œuvre merveilleuse. avec ou sans rondeur, on est une personne merveilleuse. Amen? Pourquoi? Parce que la personne, c'est bien plus que la rondeur ou la minceur. La personne, c'est le cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. C'est pas toujours comme on pense dans la vie, hein? OK. Il y en a quelques-uns qui trouvent qu'ils ont un petit peu d'emploi, donc ils font un petit peu de marche, hein? Ou de la course. Mais si la marche était bonne pour la santé, le facteur serait immortel. Une baleine, ça nage toute la journée, ça mange juste du poisson, ça ne boit que de l'eau et pourtant elle est grosse. Un lapin, lui, ne mange que des légumes. Il court et il saute à longueur de journée, pourtant il ne vit que 5 ans. La tortue, elle ne court pas, elle ne s'excite pas, elle ne fait rien d'énergique, et pourtant elle vit 450 ans. Alors, vous me dites que je devrais faire de l'exercice? Je vais continuer à réfléchir. Non, sérieusement, on peut faire un peu de l'exercice, bien sûr, pour bouger, pour se tenir en forme, pour maintenir les articulations. Jusqu'à ce qu'on devienne jaloux de l'embonpoint des autres. Hein? Bon, on revient encore à ce passage-là ici. Hein? Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, eux autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont si confortables qu'ils ont développé même de cet embonpoint-là. Et puis ça, c'était comme justement une source de « wow! » Ils l'avaient vraiment, eux autres, ils avaient vraiment atteint tout ça dans leur vie. Hein? Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Verset 5. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Asaph est encore ici dans la comparaison. Hein? Eux autres, ils ne connaissent pas qu'est-ce que c'est la souffrance. Ils ne connaissent pas qu'est-ce que c'est les mauvais diagnostics. Ils ne connaissent pas qu'est-ce que c'est les inquiétudes et les angoisses et les stress qu'il peut y avoir par rapport à toutes sortes d'inquiétudes qu'on a dans le domaine de la santé, dans le domaine familial, dans le domaine des relations internationales, dans le domaine du commerce, dans le domaine de toutes sortes de choses. Ils ne connaissent pas qu'est-ce que c'est ces souffrances humaines-là. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Au verset 12, il dit, « Voici comment sont les méchants. Toujours tranquilles, ils augmentent leur richesse. » C'est ça, ils se comparent encore. Ils ont l'air tout le temps d'empiler, empiler, empiler. Ou ils démontrent qu'ils empilent. Peut-être qu'ils n'empilent pas tant que ça. Ces comparaisons-là nous mènent toujours sur un terrain glissant. Asaph se compare donc et compare le bien-être ou le confort des autres, hein, l'absence de tourment des autres. Ils n'ont pas de souffrance, eux autres, leur richesse augmente. Alors, au verset 13, il s'exprime en disant, « C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Si le méchant prospère, pourquoi les gens fidèles devraient-ils continuer à faire du bien et à vivre une vie juste? La prospérité des méchants semble si invitante que les fidèles en viennent parfois à désirer changer de place. » C'est là le terrain glissant. C'est là le terrain glissant. « Mon pied allait trébucher, disait Asaph au verset 2. Mon pied allait trébucher, mes pas étaient sur le point de glisser. J'étais juste sur le bord de tomber. » Et puis au verset 16, il dit, « Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, quand je me suis arrêté puis je me suis mis à réfléchir, la difficulté a été grande à mes yeux. » Honnête, Asaph. Honnête avec ses doutes. Honnête avec son combat. Honnête avec l'injustice apparente de la comparaison qu'il fait avec l'autre, le méchant, ou l'injuste, ou l'infidèle. Quand j'ai réfléchi, la difficulté a été grande à mes yeux. Verset 17, jusqu'au moment. La difficulté a été grande, c'était difficile à comprendre quel côté qui pèse plus que l'autre. Jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu. Jusqu'au moment où je suis entré dans la présence de Dieu. On est bien quand on loue Dieu, n'est-ce pas? On est bien lorsque soudainement, alors qu'on loue le Seigneur à travers un chant, à travers un cantique, soudainement, hein, on ressent dans notre cœur une proximité avec le ciel. Un quelque chose de plus grand qui soudainement devient une réalité dans notre cœur. Une paix vient s'installer, un shalom vient s'installer. Un bien-être extraordinaire vient s'installer dans le cœur de l'enfant de Dieu. Et soudainement, les comparaisons futiles avec le bonheur apparent des injustes sur la terre prend une tournure complètement différente. La difficulté a été grande pour moi d'essayer de comprendre toute cette chose-là jusqu'à ce que je sois entré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai prêté attention au sort final des méchants. Dans la présence de Dieu, en ressentant la paix de Dieu, en étant conscient de notre réalité qu'on est des êtres éternels, des êtres qui vont vivre pendant l'éternité. Pas éternels de par leur origine, mais par leur destinée. En réfléchissant au sort des méchants, soudainement, Asaph découvre une autre perspective. On ne voit plus les choses de la même manière lorsqu'on est près de Dieu. Alors voilà pourquoi on devrait être près de Jésus. Et rester près de Jésus. Pour garder une clarté d'esprit, une clarté de vision sur la réalité des choses. Parce que la réalité, ce n'est pas juste l'apparence. Ce n'est pas juste l'analyse sommaire d'une comparaison quelconque. Mais c'est la réflexion plus profonde sur ce qui va arriver plus tard. Le destin éventuel. Au verset 25, Asaph dit, « Qui d'autre ai-je au ciel et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Si je ne t'ai pas toi, je n'ai rien. Rien d'autre ne me satisfera ou ne durera. Rien d'autre. Je ne prends plaisir qu'en toi. » Ce qui va nous faire du bien sur la terre, c'est d'être dans la présence de Dieu. Ce qui va nous faire du bien sur la terre à chacun d'entre nous, c'est de rester près de Jésus. Rester près de Jésus, toujours plus près de Jésus. C'est Blaise Pascal, le grand philosophe, chrétien, théologien, inventeur, physicien, mathématicien, qui a donné son nom sur l'unité de mesure des pascals en électricité, si je ne m'abuse, quelque chose comme ça. Qui a vécu au 17e siècle en France, il a vécu juste, même pas 40 ans, ça n'a pas de bon sens, puis il a marqué pourtant le monde. Lui, il a dit bien des choses, Blaise Pascal, et au niveau de la foi, de la confiance, de la croyance en Dieu, dans les pensées de Pascal, il affirme la phrase suivante, « Il existe dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien de créé ne peut remplir. » Dieu a fait l'homme avec un vide spécialement qui ne peut être comblé que par la présence de Dieu. Et on vit tout le temps une insatisfaction dans la vie jusqu'à ce qu'on connaisse Jésus comme notre sauveur personnel. Vous rappelez-vous du jour que vous avez connu Jésus comme votre sauveur personnel? Hein? Vous rappelez-vous? La paix qui est venue dans votre cœur? Moi, je me rappelle encore de cette journée-là. Oh, ça fait longtemps. Il y a 52 ans, demain, c'était un 24 août 1974, où quelqu'un a parlé de Jésus et comment on avait besoin de se tourner vers Jésus. Et puis, j'ai fait la prière de repentance, j'ai invité Jésus-Christ comme mon sauveur personnel, puis, poum! La transformation s'est opérée. J'ai dit, waouh! Même si j'étais petit, j'avais cru en Dieu. J'avais tout appris mon petit catéchisme comme il faut, j'avais toutes eu mes réponses, j'avais réussi à passer mes années scolaires. J'avais été servant de messe dans mon jeune âge. J'avais tout fait, j'étais un bon petit religieux, désobéissant pas mal. Mais quand même, avec l'image de la religion, ça allait pas pire. Mais ce jour-là, quand le 24 août 1974, j'ai connu Jésus comme mon sauveur personnel, ça n'a plus jamais été pareil. Là, c'était plus de la religion. Là, c'était plus du paraître devant le monde. Ce qui était important, c'était la réalité, la communion extraordinaire que je vivais dans mon cœur avec un Dieu éternel. Et ce jour-là, je me suis dit, wow, Dieu, c'est si merveilleux que ça. Faut qu'il y ait d'autres personnes qui entendent parler de ça. Et c'est ce jour-là que l'étudiant en sciences naturelles est devenu quelqu'un qui s'est mis à réfléchir plus au niveau sur l'importance de la théologie et puis de partager sa foi en Dieu. Connaître Jésus comme son sauveur personnel, ça transforme une vie. Et rester près de Jésus, ça garde quelqu'un transformé en une personne qui devient un enfant de Dieu. Est-ce que tout est parfait? Non. Est-ce qu'il y a encore des améliorations? Oui. Est-ce qu'il y a encore des rondeurs qui devraient disparaître? Oui. Est-ce qu'il y a un petit peu trop de minceur qui devrait être enrobé? Oui. Il y a toutes sortes de choses comme ça, hein, dans la réalité spirituelle. Blaise Pascal dit, il n'y a rien qui va satisfaire une personne comme rencontrer Dieu, comme connaître Jésus comme son sauveur personnel. Alors ce matin, si vous m'entendez, puis vous n'êtes pas sûr si vous comprenez exactement ce que je veux dire. Parce que vous comprenez qu'est-ce que c'est l'aspect d'être religieux, bien paraître, bien se présenter devant les gens, avoir un bon code moral, bien se comporter avec les limites qu'on a physiquement, que dans le fond, des fois, ça ne veut pas toujours obéir aussi longtemps que le cœur voudrait. Parce que le cœur veut obéir à Dieu. Mais des fois, il y a d'autres réalités qui sont là. Rien ne nous approche autant de Dieu que de connaître Jésus comme son sauveur personnel. C'est essentiel. Blaise Pascal disait donc qu'il n'y a rien, il y a dans le cœur de l'homme un vide qui est fait à l'image de Dieu que rien d'autre ne peut, rien de créé ne peut remplir. C'est Blaise Pascal aussi qui disait « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. » Ah, ouais. On met ça à toutes les sauces aujourd'hui, là. Mais c'est même Blaise Pascal qui a dit ça. Ouais. Hein? Dans le dedans du cœur, il y a un désir pour quelque chose que la tête ne comprend pas au juste comme il faut. Mais c'est dans ce temps-là qu'il faut écouter son cœur, véritablement. Asaph poursuit. Il termine le psaume 73 au verset 28 et j'aimerais inviter les musiciens à me rejoindre à ce moment-ci. Pour moi, dit-il, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Pour moi, mon bonheur, ou pour moi, mon bien-être, ou pour moi, ma paix, selon différentes traductions. En fait, c'est encore le même mot, shalom. Pour moi, mon shalom, ce qui va me donner un état de paix, de confiance, de sérénité, de satisfaction profonde. Pour moi, ma paix, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. Être toujours plus près de Jésus. C'était l'affirmation du psalmiste ici qui avait vécu ses doutes, qui avait vécu ses comparaisons, qui avait vécu les injustices apparentes peut-être que la vie, ou apparentes ou réelles que la vie présentait autour de lui, et qui pourtant se dit à la fin de tout ça, pour moi là, la vérité, le véritable bonheur, la véritable paix, la véritable satisfaction intérieure profonde, c'est pas ce que le monde va pouvoir me donner. Ce n'est pas les choses que je vais pouvoir acquérir. Ce n'est pas la grosseur de personnes que j'aurai autour de moi. Ce n'est pas rien de tout ça. Qu'est-ce qui va me satisfaire véritablement? C'est de m'approcher de Dieu. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Asaph a découvert une nouvelle perspective sur le problème lorsqu'il a considéré non pas les circonstances autour de lui, mais la destinée devant lui. Il était sur un terrain glissant lorsqu'il se comparait. Et parfois, on est sur des terrains glissants. En plein hiver, parfois, la chaussée peut être enneigée. Ou pire, glacée. Et quand vous commencez à déraper avec votre véhicule sur un terrain glissant, c'est quoi qu'on fait? On paye sur le gaz au coton, c'est ça? Non? On paye sur le frein au coton? Non! Qu'est-ce qu'on fait? On regarde quel champ qu'il faut que j'évite? Non! Un professeur illustre en conduite de véhicules d'urgence de façon sécuritaire m'a dit que ce qu'il faut faire lorsqu'on est en train de déraper, c'est de regarder, de mettre les yeux là où on veut aller, sur le chemin devant soi. Le véhicule peut faire des... se dandiner d'un bord et de l'autre. Ce qui est important, c'est de garder les yeux sur là où on veut aller, sur la route devant soi. Parce que si vous regardez dans le champ, c'est là que vous allez aller. Mais si vous regardez sur la route, les probabilités sont très élevées que vous allez rester sur la route. Quand ça glisse, regardez devant. Quand on est en train de se comparer aux autres sur la terre, puis que soudainement ça devient glissant parce qu'on n'est plus si sûr que ça de notre réalité, ça vaut-tu vraiment la peine tout ça? Puis je suis en train de glisser, je suis en train de déraper. Hey! Asaph nous dit, dans ce temps-là, c'est bien mêlant jusqu'à ce qu'on mette les yeux à la bonne place. C'est quoi la destinée? C'est quoi le destin éternel? Asaph a découvert la nouvelle perspective lorsqu'il a considéré non pas les circonstances ou le glissement qu'il y avait autour de lui, mais la destinée qui était devant lui. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bonheur. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. Alors, ne souhaitez pas changer de place avec les méchants pour mettre la main sur leur richesse, parce qu'un jour, ils souhaiteront changer de place avec vous pour mettre la main sur votre richesse éternelle. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Alléluia. Et on va chanter un moment, louer Dieu.